Elle est on recommence. Elle est avec nous en studio. Bonjour, Véronique Deschênes.
Bonjour.
Comment allez-vous? Calmez-vous, là. Puis je dis ça très gentiment dans le sens qu'elle disait je suis nerveuse, puis tout. Puis ça, vous avez l'air super gentille. Et en plus, vous nous parlez aujourd'hui de quelque chose que la plupart d'entre nous, moi inclus, ignorons complètement. Mais, Gail, rappelez-nous là, le nombre d'appels que vous pouvez recevoir à propos de Ehlers-Danlos et les autres maladies, disons, par mois, juste pour nous donner une idée.
Bien, je regarde ça souvent par semaine, là, parce que je sais que c'est une moyenne de 2-3 personnes par semaine qui nous appellent ou nous écrit pour avoir de l'information ou de l'aide pour le syndrome d'Ehlers-Danlos. Et ça, c'est très rare qu'on a autant d'appels pour la même maladie. Ouais, là. Ouais. On a des appels tous les jours, mais comme il y a 7000 maladies rares, c'est souvent des maladies différentes.
Elle sent bon, mais je vous laisse quand même votre invité, puisque vous connaissez Véronique. Vous allez probablement mieux savoir que moi comment tirer profit de sa présence. Mais c'est vrai que vous sentez bonne.
Merci.
Bonjour, Véronique.
Allô.
Alors, le syndrome Ehlers-Danlos, là, juste pour une entrée en matière, dans le milieu médical, on connaît ça avec trois symptômes caractéristiques, qui est l'hypermobilité des jointures, l'élasticité de la peau, puis la fragilité des tissus, c'est-à-dire faire des cicatrices facilement là, suite à des traumas ou des chirurgies. Ça, c'est les trois choses qu'on voit dans les livres. Mais c'est beaucoup plus que ça, le syndrome. Puis je pense bien que Véronique va nous expliquer ça. Mais en premier, je voudrais te demander, toi, c'est une maladie héréditaire. Hein? Fait que quand on est enfant, ça commence à apparaître. Puis souvent, ça prend du temps à diagnostiquer. Comment ça s'est passé pour toi, ça?
Vraiment. Moi, j'ai eu des premiers symptômes, je dirais, vers l'âge de 8 ans. C'était au niveau des genoux, les rotules me tournaient de bord. Donc, à ce moment-là, j'ai eu mes premières orthèses aux genoux. Je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas faire de vélo. Ensuite...
Est-ce que ça fait mal?
Est-ce
Quand
que ça fait mal?
Quand ça tourne du mauvais bord, là...
Oui, ça donne un choc.
J'imagine.
Ça donne un choc. Okay. Ensuite, vers l'âge de 11 ans, j'ai fait ma première colonoscopie, ma première gastroscopie. J'avais déjà des brûlements d'estomac terribles. C'est resté comme ça. Ensuite de ça, il y a un bout que j'étais plus capable de manger du tout, du tout, du tout, du tout. Les douleurs ont commencé chroniques de la tête aux pieds. Ça a commencé à 14 ans. J'avais des... comment qu'on dit? Moi, je faisais beaucoup de sport. Je faisais de la nage synchronisée, du ballet, tout. Donc là, je développais des tendinites au niveau des aines.
Mais je vous arrête.
Oui.
Comment peut-on faire de la nage synchronisée alors que l'eau offre une résistance aux jambes et que le genou pouvait plier du mauvais côté?
À ce moment-là, le genou avait été renforcé. Okay. J'avais déjà fait un peu de kiné à ce moment-là. Puis en grandissant, ça s'est stabilisé. Mais à cause de toutes les tendinites que j'avais aux jambes et tout, j'ai été obligée d'arrêter les sports. Mmh. Ces tendinites-là, je les ai encore aujourd'hui. Ils ne sont jamais réparés. Toutes les entorses que j'ai depuis ma jeunesse, je les ai encore. Le manque de collagène fait que ça ne se répare pas. Donc, on m'a dit que j'avais la fibromyalgie, blablabla. À l'âge de 22 ans, j'avais des décharges électriques au cerveau. On m'a conduit dans un hôpital. On pensait que j'avais la névralgie d'Arnold ou des trijumeaux. On m'a donné de la cortisone. Ça n'a pas fonctionné. On m'a rentré en médecine interne, puis on m'a diagnostiqué la fibromyalgie, sauf que j'avais déjà plus que les 18 points. Donc, ça a resté comme ça un certain temps. J'ai réussi à avoir une grossesse qui a été très, très, très difficile. On ne savait pas pourquoi à ce moment-là.
Est-ce qu'on savait que ce serait difficile sans savoir pourquoi? Est-ce qu'on présumait que ça hypothéquerait le corps?
Pas du tout, parce qu'à ce moment-là, on me considérait fibromyalgique. Mm-hmm. Donc, j'ai eu une grossesse et j'ai été malade du début à la fin. J'ai pas été capable de manger. En fait, je mangeais tout le temps parce que je voulais que ma fille vive. Mais bon, ça a été difficile. J'ai détesté ça, être enceinte. Je savais pas pourquoi, puis je me trouvais un peu... Je trouvais ça difficile. En fait, qu'est-ce qui se passait, c'est que j'avais une autodestruction du poumon qui se passait à l'intérieur au moment même que j'étais enceinte. Ce qui veut dire que les pneumologues comprennent même pas pourquoi je suis en vie aujourd'hui, parce que la petite aurait pu peser sur mon cœur ou elle-même aurait pu vraiment comme mourir à travers tout ça. Mmh. J'étais dilatée à 7 mois. Fallait pas que je bouge. Puis à 8 mois, j'ai accouché.
Puis c'est tout de suite à l'accouchement que le diagnostic a finalement été fait? C'est le problème du poumon qui a fait...
Là, j'avais 25 ans. À l'âge de 28 ans, j'ai eu un pneumothorax. Puis c'est là qu'on s'est aperçu que j'avais un poumon qui s'était complètement autodétruit. Mmh. Il y avait des trous dedans, il y avait des bulles. Puis c'est là qu'on m'a dirigée en génétique pour voir quel genre de maladie pouvait être liée à un poumon puis un pneumothorax. Dont Marfan. J'ai passé les tests pour Marfan, puis j'ai passé les tests pour le type vasculaire du syndrome d'Ehlers-Danlos. Ensuite, on m'a enlevé...
Il y a combien de types?
Je dirais presque 19 avec les mutations.
Oui. Okay. Pas tout à fait, mais c'est parce qu'avant, on appelait ça, on les numérotait, les types, ça pouvait aller jusqu'à 11, 12. Maintenant, on a réduit ça, mais il y en a quand même au moins 7, 8 là, types. Okay.
Donc, la plupart
sont très rares.
Bien, c'est ça. Moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que je suis très particulière parce que j'ai un poumon qui a été autodétruit. Présentement, j'ai le foie qui est en train de faire des trous. C'était tout considéré idiopathique, ces maladies-là. Mais bon, on croit tous que c'est avec le manque de collagène que ça se produit. Donc, on ne sait pas vraiment le type. C'est pour ça que moi, présentement, j'essaie de faire des démarches pour aller voir le docteur Amonet à Paris pour savoir quel type, quelle mutation que j'ai. Parce que je suis la seule dans le monde à avoir perdu un poumon dans cette maladie-là puis à se détruire du foie. Donc, je ne le sais pas encore. Je reste un peu encore dans l'errance, malheureusement, même si j'ai reçu le diagnostic.
Est-ce que Ehlers-Danlos pose la question de l'espérance de vie? Est-ce que l'espérance de vie est plus courte?
Parce qu'avec
tout ce que vous décrivez, là...
Moi, c'est que ça touche tout mon intérieur, les niveaux des organes et tout. Tout dépendamment des types, c'est pas tous les types que ça va toucher au niveau gastro-intestinaux. Moi, mes intestins, ils fonctionnent plus du tout. Je suis obligée de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour les faire activer. Donc, oui, il y a des risques pour moi, puis pour celles qui ont des troubles à l'intérieur, parce qu'il peut y avoir des perforations, il peut y avoir des artères qui décident de couper, il peut y avoir des anévrismes. Ça peut arriver n'importe quand que ça casse.
Oui, le type le plus sévère, c'est justement le type vasculaire, parce que justement, les vaisseaux, puis le cœur est plus atteint. Fait que là, il peut y avoir des morts jeunes, des morts subites, comme dans d'autres types de maladies comme ça. Mais c'est une faible proportion de toutes les personnes qui ont le syndrome Ehlers-Danlos. Puis en général, on peut pas dire que ça atteint, la longévité est affectée, mais c'est sûr que Véronique, elle, c'est un cas plus sévère, plus...
Véronique, décrivez-moi votre apparence, parce que vous avez cette semaine envoyé une ou des photos que, bon, je ne voyais pas, et la webmestre m'a posé la question, est-ce que vraiment elle... accepte qu'on mette cette photo-là pour que ce soit rendu public ou elle a juste envoyé les photos pour l'équipe. Alors, sans trop comprendre, j'ai compris qu'il y avait quand même quelque chose qui, visuellement, suscitait cette question-là.
Oui. Donc, vous voulez que je décrive physiquement à quoi je ressemble?
Dans le sens...
Par exemple, juste aujourd'hui, tu peux peut-être décrire qu'est-ce que tu as sur toi.
OK. Généralement, je porte un masque parce qu'il faut que je me protège. Soit un masque juste d'hôpital, mais comme moi, au niveau respiratoire, je suis vraiment, vraiment touchée. J'ai un masque de vélo qui est extrêmement puissant. Donc, il lutte contre la poussière, la cigarette, les vapeurs de véhicules. Je fais beaucoup d'asthme. Maintenant, j'ai des sécrétions qui restent collées depuis 2 mois au niveau des poumons. Puis, j'ai commencé à faire des blocages au niveau respiratoire. Donc, je vais être prise en main bientôt. Pour ça, je vais avoir un percussionnaire. Aujourd'hui,
qu'est-ce qu'un percussionnaire?
Un percussionnaire, c'est pour un peu comme les gens qui ont la tuberculose. Mmh. Ça fait comme taper, puis ça déloge les sécrétions.
Mmh. OK. Le fameux clapping qu'on faisait à une certaine époque. Là.
Exactement.
Bon, Véronique, je vous arrête. C'est un bon teaser. C'est certain que les gens vont rester là puis vont revenir parce qu'ils veulent savoir le reste du look. Mais en même temps, on voit que c'est beaucoup plus qu'un look. Là. C'est des obligations, c'est la vie, c'est le quotidien. Il nous reste un petit 7 secondes. On prend une pause puis on vient de l'autre côté.